RFI.
Alors, on dit quoi ?
Inakwana, les amis, bienvenue dans Alors on dit quoi ? Aujourd'hui, je vous propose une émission spéciale enregistrée au Niger. L'arbre à palabres de la jeunesse africaine vous amène à Niamey, la capitale nigérienne, pour une immersion au cœur du 12e festival de la mode africaine, le FIMA. Mis en place il y a 20 ans par le créateur nigérien Alfadi, le FIMA est considéré comme l'un des plus grands rendez-vous dédiés à la mode sur le continent. En prenant l'art et la culture comme vecteur de développement, il est devenu incontournable et il montre la formidable créativité de l'Afrique. Une créativité qui passe par les jeunes, bien sûr. Et dans quelques instants, nous irons à la rencontre de créatrices nigériennes. Nous aborderons les enjeux de la professionnalisation du secteur, en particulier pour les femmes. Le programme d'Alors on dit quoi ne s'arrête pas là. Le légendaire Alfadi sera à nos côtés. Il reviendra sur son parcours et sur les défis actuels de la mode africaine. Roufaï, mannequin, nous dévoilera les coulisses des défilés. Et le chanteur Al Radik nous fera danser tout au long de l'émission. La mode, moteur de développement, c'est tout de suite dans Alors on dit quoi. À Tienudem, c'est parti.
Alors on dit quoi avec Djaran Djaï.
Le continent africain regorge de talents artistiques. L'enjeu est aujourd'hui de donner à ces derniers la visibilité et les moyens de se professionnaliser afin de vivre de leur art. Pour en parler, nous avons choisi un plateau 100% féminin et nigérien. J'accueille Adiza Amadou Maïga, créatrice de Adiline Création. Elle défile au FIMA cette année dans la catégorie 100% Niger. Bonjour et bienvenue Adiza.
Bonjour, merci.
Avec nous aussi Biba Bellamy Kounché, fondatrice de la marque Mabiba. Bonjour Biba et ravie de vous avoir parmi nous.
Bonjour, merci à vous.
Aujourd'hui, Alors on dit quoi ouvre le débat sur la professionnalisation des jeunes designers à l'occasion du FIMA 2019. Les stylistes ne sont pas que des créatifs, ils doivent également être des chefs d'entreprise à même de gérer leur marque. Comment amorcer ce challenge ? Quelles sont les initiatives à mettre en œuvre pour les faire rayonner ? Quelles difficultés rencontrent-ils ? Élément de réponse dans ce reportage de Bouli, correspondante au Niger.
Dans son atelier situé au nord de Niamey, Salamatou Youssoufou, jeune femme dynamique de 27 ans, est concentrée sur sa machine. Elle s'active dans la confection de sa collection qu'elle a nommée Tatou, qui sera au rendez-vous pour la première fois au Festival international de la mode africaine FIMA.
Participer au FIMA, pour moi, ça signifie beaucoup parce que je l'ai rêvé depuis l'enfance. Donc, je pense que l'essentiel, c'est de faire des très belles collections et des jolies collections pour que les gens apprécient. Je pense que c'est ça l'essentiel.
La marque Tatou de la jeune styliste est vieille de 9 mois seulement. Un rêve que Salamatou réalise en bravant les réticences de ses parents.
C'était une passion pour moi depuis l'enfance. J'avais pas pu faire ce que je voulais parce qu'il y a les études qui sont là et les parents qui sont contre. Oui, les parents étaient contre. Vous n'êtes pas sans savoir quand tu dis aux parents tu vas faire le stylisme, ils vont penser que tu vas être un tailleur. Avoir une machine et coudre pour les gens. Oui, surtout c'est la maman au fait. Je prenais même ses voiles pour confectionner des tenues à la main et je portais. Elle me tabassait pour ça, mais comme c'est la passion, je ne cédais pas au fait. C'est maintenant qu'elle disait oui, elle voit que c'est ça que je veux faire au fait. Et elle a tant regretté. Pourquoi elle ne m'a pas laissé depuis le début le faire.
Vêtue d'une robe en wax bleu, Zida, jeune femme mince mais pétillante de vie, nous accueille dans son atelier en plein chantier dans le 3e arrondissement de Niamey. La trentaine, elle est déjà considérée comme expérimentée dans le domaine. Zida est la créatrice de la marque Mounabel, assez connue sur place. Contrairement à Salamatou, chez Zida, la mode est une histoire de famille.
Moi d'abord, ma mère elle est couturière. Donc on va dire que j'ai un peu grandi dans le milieu. Et après le bac, je voulais faire la mode comme ma mère parce que c'est un métier qui me passionne beaucoup. Et j'ai appris en fait depuis que je suis toute petite. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas aller faire une formation pour améliorer ce qu'on avait déjà ici à la maison. J'ai fait une formation au Sénégal dans le cadre de la mode, donc depuis 2015, j'exerce ici au Niger.
La marque Mounabel a déjà fait ses preuves sur le podium du FIMA avec sa collection de tenues de cérémonie.
J'ai participé au FIMA lors de la 11e édition. C'était au Maroc, plus précisément à Dakar, c'était en 2018. Après tout, c'est quand même le Festival international de la mode africaine. Donc c'est un élément phare vraiment dans ce que nous on fait que de pouvoir défiler sur un grand podium comme le FIMA.
Selamatou, la styliste en herbe, et Zida, qui elle a déjà trouvé son chemin, sont les deux faces de la jeune génération de stylistes modélistes qui arrivent à s'imposer dans le monde de la mode au Niger. Des jeunes qui ambitionnent de conquérir le marché africain et mondial.
FIMA, symbole de l'unité. FIMA, une rencontre de paix.
Nos deux invités souhaitent aussi conquérir le marché international. Biba, dans le reportage, on a vu que le FIMA est un rêve d'enfance pour Selamatou. Pour vous aussi, c'est un événement important ?
Le FIMA est un événement important pour moi du moment où, à mes 16 ans, je voulais déjà défiler au FIMA. Je me suis présentée...
En tant que mannequin ?
En tant que mannequin, déjà 16 ans, parce que ça commence, Alpha D commence à recruter à cet âge-là. Et donc, arrivée justement au passage, j'ai rebroussé le chemin, j'ai fait demi-tour tout simplement, parce que j'avais peur de mon père, il n'était pas au courant, donc je ne savais pas comment il allait le prendre. Du coup,
donc il y a des similitudes effectivement dans le reportage. C'est vrai que l'image de la mode n'a pas forcément été toujours positive.
Non, pas du tout.
Et vous, Adisa, je vous ai vu également réagir durant ce reportage que vous évoquez ces parcours.
En fait, nous avons toutes les mêmes réalités. Nous avons sûrement toutes à peu près les mêmes obstacles. Parce que moi, j'avais un boulot très bien rémunéré à la banque quand j'ai décidé d'arrêter pour acheter une machine et puis commencer à faire la couture. Mes parents n'étaient pas trop pour, parce que pour mon père, toutes les études que j'avais faites, il voulait vraiment que je sois au cadre de la société et tout. Mais bon... Après, il m'a laissé, j'ai commencé, mais c'était vraiment pas, c'était trop contre son gré, et ma mère aussi. Et il m'a fallu 4 ans pour pouvoir les convaincre. Hein. C'est après 4 ans qu'ils ont vraiment accepté que je sois chef d'entreprise, que je sois dans la mode, que je fasse ce que je fais. Parce que mon père étant très très religieux, ce qu'il craignait, c'est que je me mette dans la mode et à faire des petites tenues avec nos réalités, à faire des petites tenues, à faire... C'est vraiment ce qu'il ne voulait pas. Et après 3 ans en train de défiler, il a vu ce que je fais comme collection. Et voilà, j'ai réussi à le convaincre à travers ces défilés-là que je ne fais rien de dénudé. Tout ce que nous faisons, c'est à trait avec les réalités africaines. Parce que ce qu'on fait, c'est qu'on travaille, par exemple, le pagne nigérien surtout, avec, les brodes avec des comme ce que je porte là.
Oui, les mais nos auditeurs avec, ne voient pas.
Voilà.
Donc, c'est justement
ça. Ce que nous faisons, c'est que nous essayons de faire... des tenues qui, le pagne utilisé reflète une ethnie du Niger, et à côté nous essayons de faire une croix d'une des régions du Niger, parce qu'au Niger toutes les régions sont représentées par des croix, il y a des régions qui en ont deux, mais toutes les régions sont aujourd'hui représentées par des croix. Et je me dis qu'avant de vouloir conquérir le marché africain international, il faut d'abord commencer chez soi, et c'est ce que nous faisons depuis 4 ans.
Et c'est ce que nous adorons dans, alors on dit quoi, bien sûr, des tenues 100% africaines par des Africains, pour des Africains, c'est exactement ce qu'on souhaite montrer. Vous étiez agent de banque, agent dans une banque, et vous avez tout lâché pour vivre votre passion. Quel a été le déclic ?
Les débuts étaient très difficiles. C'était très difficile parce que je n'arrivais pas à m'en sortir et je n'osais pas dire financièrement. Je n'osais pas dire à la maison que je ne m'en sortais pas parce que c'était presque un défi. Et à un moment, j'ai dû fermer l'atelier. Je leur ai dit qu'on était en travaux. J'ai fermé l'atelier pendant 4 mois parce que je n'arrivais pas à gérer le loyer, les charges fixes, je n'arrivais pas à gérer. Donc j'ai dû fermer l'atelier pendant 4 mois pour pouvoir retomber sur mes pieds. Je suis allée voir une dame, enfin c'est un monsieur que je suis allée voir, et je lui ai demandé s'il pouvait me donner des bazins. J'allais faire des prêt-à-porter, et quand je vais vendre, je lui ramène les sous de ces bazins. Il n'était pas d'accord, mais j'ai réussi à faire en sorte que sa femme le convainque.
Vous arrivez à convaincre beaucoup de gens, hein. Faudra nous dire votre secret, Adisa.
Donc c'est vraiment ce que j'ai fait, et c'est comme ça que c'est parti. Donc voilà, au bout d'un certain temps, je me suis dit que ce métier de la mode, ce n'était pas que les préjugés que les gens avaient, ce n'était pas que du négatif, ce ne sont pas des... en tout cas, notre génération là qui arrive, vous voyez comment nous sommes habillés. Nous sommes vraiment très, très jalouses de notre tradition. Et cette génération qui arrive fait en sorte que l'habillement africain soit modernisé, revalorisé, mais son essence est là, elle reste.
Et vous êtes passé du coup par une école de mode. Comment avez-vous été formée?
Autodidacte YouTube. C'est vraiment, comme je le disais, c'était vraiment de la passion et c'était vraiment un défi pour moi de réussir, que tous les moyens que je pouvais utiliser, je les ai utilisés. Et c'est vraiment sur YouTube que j'ai fait tout ce que je pouvais faire, c'est sur YouTube que je l'avais fait. Et j'ai un ami sénégalais qui avait un atelier de couture ici. C'est lui qui m'avait appris à faire les coupes, c'est lui qui m'a appris à faire les assemblages. Et du coup, je n'ai plus de problème avec mes tailleurs. D'ailleurs, j'ai les mêmes qu'il y a 10 ans. Le premier avec lequel j'ai commencé aujourd'hui, c'est l'apprenti. Le premier apprenti, c'est lui, là, le gérant de l'atelier. Et mes premiers tailleurs sont toujours là avec moi.
Et en plus, vous arrivez à fidéliser les clients. Alors vous, on va vous prendre comme coach. Hein. Adisa, continuons de parler de professionnalisation parce que c'est important. Comment du coup vous recrutez? Comment vous formez vos collaborateurs qui sont vieux finalement d'une dizaine d'années?
Au départ, j'avais une image dans ma tête, c'est qu'il fallait pas prendre des étrangers. Parce que je voulais avoir une entreprise 100% nigérienne. Quand j'avais envie de faire des broderies sénégalaises, parce que je commençais au fur et à mesure, j'avais juste une machine couture simple la première année. C'est après que j'ai acheté des machines de broderie. Et quand j'ai voulu faire les broderies comme au Sénégal, j'ai envoyé mon tailleur au Sénégal. Il a appris et il est revenu. Quand j'ai voulu faire des broderies, des coutures comme au Mali, j'ai envoyé mon tailleur là-bas. Il est parti, il a appris et il est revenu. Quand je voulais des coupes comme à Cotonou, j'ai envoyé mon tailleur au Bénin. Il est parti, il a appris. Et c'est trois personnes différentes. Et après, c'est elles qui sont venues former. Aujourd'hui, j'ai 43 employés et mes tout premiers employés sont toujours avec moi.
Oh là 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 là, ça m'a l'air d'une bravo Adisa. Vraiment un excellent parcours. Et j'espère que d'autres créateurs s'en inspireront. En tout cas, et au niveau de la promotion des tenues ethniques que vous vendez, comment on pourrait caractériser l'univers de Adiline?
Je suis très soutenue par les Nigériens de la diaspora. Dans tout ce que je fais comme événement, je leur consacre toujours deux ou trois lignes pour les remercier. Les Nigériens de la diaspora consomment beaucoup ce que je fais, que ce soit aux États-Unis, que ce soit à Accra, que ce soit en Europe, même en Chine, je livre. Les Nigériens de la diaspora, pour les fêtes, surtout fêtes de Ramadan et fêtes de la Tabaski, consomment tout ce que je fais.
Ils ont accès à ces créations via les réseaux sociaux, via les sites en ligne.
Oui, on a une page Facebook sur laquelle nous publions tout ce que nous faisons. Et j'ai, à part mes tailleurs, j'ai une équipe, on l'appelle la Team Hadiline. Et c'est avec eux que nous faisons notre com sur les réseaux sociaux. Nous sommes 43, quand il y a un seul article, du coup... À la même minute, il y a 43 personnes qui le publient, ce qui constitue un grand réseau. Et voilà.
Ça n'a pas été difficile de trouver la main-d'œuvre qualifiée de 43 personnes?
Si, ça a été très difficile. Ça a été 43 personnes, c'est au bout de 10 ans que je suis à 43. C'est au bout de 10 ans que je suis à 43, sinon au début, c'était très difficile. Mais ce que je n'ai pas fait, c'est que j'ai eu l'expérience à la banque quand un agent n'était pas qualifié, on le renvoyait ou on le remplaçait. Je ne voulais pas faire ça dans mon entreprise, moi. Quand ça n'allait pas, j'envoyais la personne en formation. Mm-hmm. Et c'est un peu ce que j'ai fait en les envoyant à l'étranger apprendre.
Et c'est ce qui marche, finalement. Puisqu'aujourd'hui, avec 43 employés, c'est une belle évolution, Adisa. Vous faites des tenues sur mesure et vous misez sur la qualité, une qualité qui a un coût, il faut dire. Pouvez-vous nous décrire peut-être le portrait type de vos clients? Vous parliez tout à l'heure de la diaspora nigérienne. Est-ce qu'on peut en savoir davantage?
Je suis de l'association nigérienne des jeunes entrepreneurs. Je suis membre fondateur. Nous avons une certaine solidarité entre nous. Nous consommons chacun les produits de l'autre. Et ce sont, je leur fais d'ailleurs un clin d'œil, la NGE.
Ben on les salue nous.
Vraiment, ce sont mes premiers clients. Vraiment, parce que c'est entre nous qu'on décide que voilà, il faut consommer chez l'autre, il faut faire chez l'autre, et quand l'autre a un événement, il faut le soutenir. Et j'ai aussi travaillé dans la banque, donc je connais beaucoup. Aujourd'hui, beaucoup de cadres qui sont dans les banques sont des amis à moi avec lesquels on a fait le background ensemble. Donc, dans le secteur privé, où des mamans qui voient leur fille défiler chez moi, elles viennent leur montrer les modèles des défilés du 8 mars que nous organisons. C'est vraiment comme ça. Parfois, c'est le bouche à oreille qui marche même mieux que les réseaux sociaux parfois. Donc, je n'ai vraiment pas une catégorie de clients bien spécifique, bien définie. J'en ai pour toutes les bourses. On nous trouve parfois un peu cher pour le pouvoir d'achat nigérien. Mais c'est parce qu'en fait, ça a un coût. Ça a un coût pour nous d'avoir formé des gens. C'est un coût pour nous. Pour les finitions, elles sont très, très importantes. Et c'est vraiment ce qui prend du temps. C'est vraiment ce qui fait qu'aujourd'hui, un habit, ça coûte cher chez nous.
Alors, on dit quoi ? Jaranjaï.
Vous écoutez Alors on dit quoi sur RFI, émission qui aujourd'hui vous plonge au cœur du Festival international de la mode africaine, l'événement qui rassemble chaque année le Gotha des créateurs à Niamey au Niger. Parmi ce Gotha, Biba et Adiza, toutes deux créatrices nigériennes. Biba, revenons à votre parcours. Adiza a débuté sa carrière professionnelle comme agent dans une banque et vous, dans l'industrie pharmaceutique au Niger. Rien à voir avec la mode. Alors, comment vous avez mis les pieds dans ce secteur?
Alors, c'est un secteur que j'aimais beaucoup, étant déjà ici au Niger avant de partir en France. Et donc, une fois là-bas, on cherche du travail et c'est pas évident. Avec le taux de chômage, on se rend pas compte, mais sur place, on se rend compte vraiment de la réalité. Et là, on se demande qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on est dans un pays où on connaît personne? Quand on est dans un pays où on n'a pas de boulot, on n'a rien, on se dit, on fait quoi? Et là, je me suis dit que je me lance dans la mode parce que c'est ce que j'aimais déjà. Donc, je combine la mode nigérienne et européenne parce qu'aujourd'hui, c'est aussi ma vie, c'est ce qui me représente. Donc, je travaille la culture nigérienne et la modernité à l'occidental.
Ça n'a pas été difficile de franchir ce pas, tout lâcher, essayer de se retrouver dans ce domaine qui est la mode, un domaine concurrentiel et difficile?
Ça a été très, très difficile pour moi, puisque ça fait pas longtemps, ça fait juste 2 ans. Et c'est encore difficile. Je peux vous dire que je produis ici au Niger. C'est un choix personnel. Cela me permet déjà de revenir à chaque fois dans mon pays. Parce que je suis attachée à mon pays, je suis attachée à ma famille. Cela permet également de créer de l'emploi et de contribuer à l'économie locale à mon niveau. On voit des choses en Europe, mais quand on est partagé entre l'Afrique et l'Europe, c'est là qu'on se dit on est plus ambassadeur ou ambassadrice de parler des choses qui se font là-bas ou forcément ou ici dont on n'est pas forcément d'accord. Donc créer de l'emploi avec l'immigration et tout ce qu'il y a en ce moment, tout ce qu'on voit, on se dit c'est aussi un moyen de lancer un message à la diaspora de faire ce pas vers l'Afrique dans nos pays parce que il y a tout à faire et je pense que c'est nous Africains de revenir et de construire notre Afrique.
Est-ce que vos produits, justement, sont disponibles ici, au Niger?
Alors, comme j'ai dit, ça ne fait pas longtemps, ça fait que 2 ans. La boutique, on a une boutique en France depuis 1 an et demi. Et donc, 2020, c'est le projet d'avoir une boutique Mabiba ici au Niger.
On vous souhaite en tout cas.
Merci.
Alors, le choix de s'exiler, est-il lié à un manque de reconnaissance locale?
Non, pas du tout. Le Niger, c'est ma patrie d'origine et la France, c'est ma patrie d'amour. Je suis partie en France par le mariage. Ça n'a jamais été dans mes rêves. Je travaillais, comme vous l'avez dit, dans une industrie pharmaceutique. J'avais un très bon poste. Je voyageais un peu dans la sous-région. Je me contentais de ça parce que c'est ça que j'aime aussi. J'aime mon continent. Mais le mariage est arrivé et du coup, il fallait faire un choix. Mon mari qui travaillait là-bas. Moi, ici, on a eu un petit garçon garçon qui grandissait loin de son père. Et donc, il fallait que l'un d'entre nous sacrifie sa carrière pour rejoindre l'autre. Et vous savez, dans notre culture, c'est toujours la femme. J'ai eu un an et demi de mariage. Je suis là, on ne voyait pas... avec mon mari, on se voyait que deux fois dans l'année. Du coup, ma famille, mes amis, mes proches ne comprenaient pas c'est quel genre de mariage où le mari est dans un autre continent où on se voyait pas.
Ça arrive. C'est parfois difficile, j'imagine.
Ouais.
Mais il a fallu faire un choix.
Il a fallu faire un choix et donc voilà, c'est ce qui explique l'exil vers l'Europe.
Et cet exil, en tout cas, a donné naissance à de très belles tenues. Nos auditeurs n'ont pas la chance de voir ce que vous portez, mais c'est magnifique. On postera des photos, bien entendu. Ouais. Mais pour les titiller un peu et puis leur faire découvrir surtout votre univers, comment on pourrait décrire vos créations?
Alors, comme j'avais dit, mes créations, c'est toujours lié à la culture nigérienne. On trouve toujours une touche de ma culture, mais toujours une touche de modernité, à l'occidental. Donc, je combine toujours les deux cultures dans
avec
ce que je fais.
Avec quel type de tissu, par
avec,
exemple
avec, ça peut être des tissus européens, comme ça peut être des tissus africains. Par exemple, dans des tissus nigériens, je peux faire des coupes européennes. Mm-hmm. Comme dans des coupes des tissus européens, je fais des coupes complètement à la tradition africaine. Donc, vous voyez, c'est vraiment un mariage de cultures.
Et donc, comme Adisa, vos clients sont également issus de la diaspora nigérienne?
Pas vraiment. Ma clientèle, je peux dire à 90% est européenne, puisque j'ai ma boutique là-bas en France, et ici au Niger, je fais que la production pour le moment. Mm-hmm. Mais bon, le projet en voie.
Oui, donc vous faites du prêt-à-porter homme et femme, ou uniquement pour les femmes?
Homme, femme et l'enfant.
Homme, femme et enfant, donc toute la famille peut venir.
Tout le monde.
Et parlons business, combien ça va coûter à cette famille? Une robe chez vous, combien ça va coûter?
Une robe peut varier de 50 à 100, voire plus.
100 000 francs CFA?
Ouais.
Vous trouvez ces tarifs accessibles pour les Africains?
Pour les Africains, peut-être pas. C'est des prix européens, mais on va dire une fois que ça sera accessible, une fois qu'on aura la boutique ici au Niger, on étudiera le pouvoir d'achat et on fera des prix en fonction de ce pouvoir d'achat là. Ce qui explique aussi les prix en Europe, c'est que c'est comme l'a dit Hadiza, c'est toujours les charges. Nous avons les taxes et tout ce qui rentre en jeu. Donc voilà.
Et vous, les business, c'est important aussi.
C'est très important.
Coûts, et on parlait justement d'entreprendre et de manager. Les coûts font aussi partie de ces contraintes.
Tout à fait.
À prendre en compte. Alors, vous nous avez décrit un univers tradit, moderne. Qu'est-ce qui vous inspire également? Je suis sûre que vous allez peut-être me citer Alfadi, mais j'imagine que vous avez d'autres sources d'inspiration.
Ouais. Pas que. Par exemple, vous m'inspirez.
Merci.
Mes inspirations viennent de mes rencontres, de mes voyages. En fait, qu'elles soient des rencontres, des bonnes rencontres ou des mauvaises, j'essaie toujours de soutirer quelque chose de positif pour en faire mes créations.
Mm-hmm. Comment vous avez, vous, appris le métier?
Je suis aussi autodidacte.
Waouh, YouTube, comme Adisa?
Aussi. Mais surtout, j'ai eu la chance de pouvoir faire un stage dans une multinationale là-bas en France. Donc, j'ai pu apprendre un peu le métier. Mais j'ai pas fait de formation. Je ne suis pas allée à l'école pour apprendre ce métier-là. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je me suis lancée. Et donc, voilà.
Une belle inspiration qui a donné naissance à une collection qui sera justement au FIMA de cette année.
Tout à fait.
Autour de quelle thématique?
Alors, une collection qui est nommée Saraounia. Saraounia qui est, veut dire la reine, tout simplement, parce qu'on est au sommet des chefs d'État africains. Donc, je me suis dit, je ferai un clin d'œil aux premières dames, un clin d'œil à toutes les femmes de chefferie traditionnelle.
Qui, j'espère, porteront vos tenues, alors.
J'espère.
Et vous, Adiza, alors, vous défilez également cette année au FIMA. Comment s'intitule votre collection ?
My African Dream.
My African Dream.
Oui, ma collection s'appelle My African Dream et c'est vraiment tout cet espoir que je porte à la jeunesse nigériane et en particulier et africaine en général. Et surtout que maintenant, avec l'avènement des réseaux sociaux, avec l'avènement de toutes ces associations qui se lèvent pour se battre pour les droits de jeunes, je me dis que les choses vont peut-être bouger d'ici peu. Quoi.
Si vous aviez justement un message à adresser à ces jeunes qui nous écoutent, quel serait-il ?
Ils le font déjà assez bien. Ils le font, ça a commencé depuis peut-être 2 ou 3 ans. Et moi, mon message, c'est que la jeunesse doit s'unir. La jeunesse, les jeunes doivent se mettre ensemble pour travailler ensemble pour sur tout ce qui est question sociale, question civique, question politique et surtout les jeunes doivent s'unir, on ne doit plus être divisés. Dans notre Afrique, nos jeunes sont très très divisés et aujourd'hui nous avons besoin d'une union, d'une unité et surtout d'une cohésion.
Abiba, c'est un très beau message que vient de nous adresser Adiza. Est-ce que vous souhaitez compléter cette parole à l'endroit des jeunes africains?
Je crois que Adiza, elle a tout dit. La jeunesse doit s'unir pour un avenir meilleur, s'unir pour notre continent. C'est l'union qui fait la force.
Et voilà. Que pourrait-on vous souhaiter justement pour ce bel avenir, Biba?
Mais beaucoup de chance, beaucoup de courage, beaucoup de persévérance.
En tout cas, merci infiniment à toutes les deux. J'ai été ravie de vous accueillir sur ce plateau. Vous êtes très inspirante. Adiza Maïga, vous êtes créatrice de Adiline Création et vous défilez cette année au FIMA. On partagera bien sûr toutes vos créations.
Oui.
Merci également à vous, Biba, belle amie Contier, fondatrice de la marque Mabiba.
Merci à vous.
Alors, on dit quoi ? Diaran Jai.
À présent, place à notre pause musicale. Al Radik, de son vrai nom, Ama Yahya, est un auteur-compositeur nigérien. C'est l'un des artistes rappeurs les plus en vue au Niger et il est avec nous aujourd'hui. Bonjour Al Radik.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, vous venez nous présenter en exclusivité Thérapie. Que nous raconte cette belle chanson ?
Thérapie, tout simplement, c'est une chanson que j'écris pour soigner peut-être quelques blessures que j'ai intérieurement. Mais je parle surtout de la musique et j'explique mon apport par rapport à la musique, mon engagement. Et voilà, ici, t'es pas du tout compris souvent quand tu chantes, même avec la famille, tout ça là. J'essaie de dire que malgré que j'étais incompris, et j'ai pas cédé et je continue. Aujourd'hui, ça me rend heureux et c'est tout ce que je veux, quoi.
C'est un médicament, finalement, la musique.
Pour moi, ouais.
Alors, est-ce qu'on pourrait entendre un morceau, justement, de Thérapie ?
Bien sûr.
Alors, je vous laisse jouer. Okay. On écoute.
All right.
Et le meilleur, oh, 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 oh.
c'était super, j'ai adoré. Merci beaucoup Al Radik. Bonne continuation, on va suivre bien sûr l'évolution de votre carrière. Et dites-nous, quand est-ce que sera disponible Thérapie?
D'accord, déjà le son audio est ok, mais là actuellement je suis sur voyage, donc j'attends de faire la vidéo, donc je peux dire dans une semaine normalement, et le son sera disponible sur toutes les plateformes, et voilà.
Super.
J'espère que ça va durer sur votre radio.
Eh bien on espère aussi, avec
ouais.
grand plaisir, merci beaucoup
ouais, merci
Al Radik.
Merci beaucoup.
C'est pas si difficile. Jusqu'à que mélodie pour moi le monde est la vie qui est le meilleur. Oh, sans thérapie, mais aussi ma folie. Musique et moi, c'est pour la vie. C'est pas si difficile. Jusqu'à que mélodie pour moi le monde est la vie qui est le meilleur. Oh, sans thérapie, mais aussi ma folie. De tout mon cœur, je l'ai choisi.
C'est un rendez-vous international qui participe au rayonnement des talents Made in Africa, talents qui sont présents sur les podiums à l'instar des mannequins comme Roufaï. Bonjour Roufaï.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va très bien, merci.
Ça va bien, merci.
Alors, si je vous dis FIMA, le premier mot qui vous vient à l'esprit, c'est...
Ah, FIMA, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est la joie. La gaieté, vraiment.
Une gaieté qu'on sent et qu'on partage beaucoup, c'est vrai, dans
exactement,
cet événement.
Exactement.
Alors, combien de fois avez-vous justement défilé pour le FIMA?
Bon, cette année, cette édition, c'est la deuxième fois. J'avais fait l'édition de 2016 qui s'est tenue à Agadez et cette année aussi.
Waouh, deux voilà. fois au FIMA.
Oui.
Alors, et cette année, pour qui allez-vous défiler?
Je vais défiler pour les stylistes internationaux. Bon, aujourd'hui, je devais défiler pour les stylistes nigériens, mais j'ai eu un petit contretemps, comme je fais aussi partie de l'organisation de l'UIA. Donc, j'ai eu un petit contretemps, mais demain, je sais pas, après les essayages, c'est après les essayages que je saurai pour qui je vais défiler.
Et alors, dans votre carrière, pour combien de designers avez-vous défilé?
En dehors des designers du Niger, j'ai eu à défiler pour certains designers en Burkinabé, Bazem C. J'ai eu aussi l'honneur de défiler pour Gilles Touré. J'ai eu à défiler aussi pour un Guinéen, Alphao. Voilà, c'est les trois dont
donc mannequin international pour vous, Roufaï.
Bon, entre griffes.
Et ouais. Alors, racontez-nous les coulisses. Comment se déroule une journée type lorsque vous avez un défilé?
Ah, quand j'ai un défilé, bon, le matin, bon, la veille même, des fois, j'arrive pas à dormir.
Ah, c'est le stress. Pense,
ouais.
C'est le stress.
Parce que, quel qu'en soit le nombre d'années, les expériences que l'on a, il y a toujours ce stress qui te vient, demain, et si telle chose passe, il y a toujours des questions, des interrogations que l'on se fait la veille ou bien le jour J même. Mais évidemment, le jour d'un défilé, c'est un jour différent de tous les autres jours. Tu vas te réveiller. Des fois, tu n'as même pas le temps de mettre quelque chose sous la dent. Tu te poses des questions, mais bon. Mais quand même, la plupart du temps, on arrive à s'en sortir, ça va.
Et comment vous faites des castings, justement, pour participer à des défilés comme la FIMA?
Effectivement, à chaque fois, presque à tous les défilés, il y a un casting.
Vous êtes envoyé par une agence, Roufaï?
Malheureusement, ici au Niger, on n'a pas d'agence. Oh. Tout le monde se débrouille en freelance. Mais on est en train d'essayer de voir dans quelle mesure on peut ouvrir des agences dont je fais partie même. On est déjà en train de voir les papiers administratifs et essayer la pratique aussi. On aimerait vraiment qu'il y ait une agence, même pas pour nous, peut-être pour la génération à venir.
Oh, voilà. C'est un beau projet, beau et grand projet. Et dans ce FIMA 2019 se déroule en marge justement du sommet de l'Union africaine. Vous en parliez tout à l'heure, vous participez vous aussi, oui, au sommet, dans quel cadre?
Exactement, je participe en tant qu'agent de protocole. Donc, en tant qu'agent de protocole, et en plus j'ai été affecté dans un secteur, les événements parallèles. Bon, j'ai demandé à ce que je sois affecté là-bas parce que c'est un peu plus mon domaine, comme je suis dans les trucs événementiels, dans les défilés. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé à être affecté là-bas. Donc, dès ce soir même, on va commencer les activités.
Avec les défilés qui ont lieu ce soir, effectivement. Exactement. Et donc, vous alliez plusieurs métiers parce que vous ne vivez pas encore du mannequinat?
Exactement. Bon, ici au Niger, si l'on dit il va vivre du mannequinat, tu seras peut-être le dernier Nigérien. Ouais, en dehors du mannequinat, je suis aussi agent commercial à Canal Plus Niger. Et en dehors de ça aussi, bon, je fais pas que le mannequinat. En dehors de ma vie professionnelle à Canal, je fais aussi plusieurs activités. Beaucoup d'activités. Ouais.
Et quels sont vos projets futurs? Vous nous avez parlé éventuellement de la mise en place de la fameuse agence.
C'est le projet phare actuellement. C'est le projet que j'ai à cœur, l'agence de mannequinat.
Et que dire à tous ces jeunes qui souhaitent eux aussi devenir mannequins, peut-être qu'ils nous écoutent aussi.
Comme je ne cesserai point de le dire, il y a beaucoup de jeunes qui m'approchent, on aimerait faire ci, on aimerait faire ça. Je suis toujours à leur écoute et je leur donne les meilleurs conseils. Voilà, parce que je me dis, si nous, on a eu à nous en sortir sans une agence, pourquoi pas eux-mêmes, ils peuvent. Donc moi, les conseils que je leur donne, le mannequinat, c'est une passion. Il n'y a pas plus beau, on se sent très bien quand on vit sa passion. Parce que le mannequinat, ça se vit.
Donc, merci beaucoup, merci Roufaï. Et puis, il faudra partager avec nous vos photos de ce défilé, de ces défilés, puisque vous participez à plusieurs défilés lors de ce FIMA 2019.
Je vous en prie, merci.
Alors, on dit quoi? Jaranjaï.
Alors, on dit quoi spécial FIMA au Niger se poursuit avec notre coup de cœur Alpha Di. Impossible pour nous de ne pas aller à la rencontre de celui qui a fondé ce rendez-vous incontournable de la mode. Depuis sa création, le FIMA reflète la vision de ce styliste africain de renommée internationale. Alpha Di est avec nous, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Très bien, merci.
Bien voyagé?
Super, tout va bien. Le FIMA Alpha Di se tient actuellement en marge du sommet extraordinaire de l'Union africaine. Nos décideurs africains sont présents et vous les incitez à prendre conscience des multiples opportunités offertes par votre secteur. Est-ce que ce plaidoyer porte ses fruits?
Je crois que ça commence. Déjà, vous avez vu l'année passée, un jeune talent de l'Éthiopie a pu habiller en même temps plus de 34 chefs d'État de nos pays africains. Porter ses fruits, c'est aussi comprendre que l'éducation commence à être comprise par eux. Ça veut dire créer des écoles de mode, créer des universités au niveau de la création, commence à être financée par nos gouvernants. Mais aussi porter africains, surtout. Nos gouvernants qui portent des grands couturiers européens ou américains, on leur dit, les créateurs africains aussi sont là. Dans vos vestiaires, que vous portez un costume ou deux costumes avec des grosses cravates, je comprends très bien, c'est très beau, mais portez aussi des chemises, même des cravates et des costumes aussi, signés des créateurs africains. Donc ça commence à porter ses fruits. Et nos premières dames, vous voyez maintenant, elles ne portent que, toutes ne portent que des créations africaines, des talents africains. Ça, c'est des choses qui sont en train de venir. Et la population jeune commence à dire nous sommes africains, nous revendiquons notre africanité, donc nous voulons porter ce que les créateurs africains font.
Et les jeunes qui doivent notamment se professionnaliser, vous venez d'évoquer justement l'école supérieure de la mode et des arts que vous envisagez d'ouvrir. Où en est le projet, dites-nous?
Le projet marche très bien. Vous savez, il y a toujours des retards partout. On a ce projet qui date de 7 ans bientôt, et ce projet a vu les jours. Tout est lent chez nous, parce qu'on ne comprend pas que la création peut apporter. Les banquiers qui nous suivent n'ont pas compris au départ. Maintenant, on a quand même du soutien plus fort que des grosses banques qui sont complètement avec nous, qui sont en train de nous accompagner dans le domaine de l'école. Le terrain a été acquis, les plans sont faits, le financement sont ficelés. L'école va voir les jours. C'est une grande école de référence.
Est-ce qu'on a une date éventuellement?
Bon, je suis vraiment navré de ne pas donner une date exacte de cette école, parce qu'uniquement l'école est... C'était complètement fait. Mais uniquement, ça prend...
Qu'est-ce qui freine, selon vous? Est-ce qu'il y a des obstacles que vous rencontrez?
Obstacle que la création ou la culture n'est pas tellement comprise par nos gouvernements.
Donc il reste encore une étape à franchir dans la prise de conscience dont on parlait tout à l'heure.
Absolument. Cette prise de conscience doit être totale au niveau du gouvernement. Ils veulent l'accompagner, mais ils préfèrent mettre l'argent ailleurs. Mm-hmm. Alors que la culture et l'éducation est une chose grandeur nature que nous voulons absolument.
Absolument, et on le voit dans le FUMA justement. Voilà. Quel exemple de mesure devraient adopter, par exemple, nos États? Qu'est-ce qui pourrait aider au développement de l'industrie de la mode africaine?
Mais qu'ils soient sincères avec eux-mêmes, qu'ils stoppent nos enfants, qu'ils leur empêchent d'aller mourir en mer, qu'ils leur fassent comprendre qu'aujourd'hui la créativité et l'art est une chose incroyable que nos pays africains doivent tenir. L'art contemporain africain commence à avoir de la valeur, commence à vendre des tableaux à des millions de francs CFA, un seul. Les bijoutiers, les sculpteurs, les créateurs de mode commencent à être aimés.
Ah, vous avez tout à fait raison. En préparant l'émission d'ailleurs, j'ai vu un chiffre. La mode en Afrique, c'est un chiffre d'affaires de plus de 50 milliards d'euros par an.
Que
vous évoque ce chiffre?
Ce chiffre, 50 milliards de dollars, c'est beaucoup. Donc il n'y a pas de raison que l'Afrique ne pouvait pas être émergent et émerger par rapport à ces données, montrer qu'aujourd'hui il n'y a pas que des grands créateurs qui ont une grosse image ou la haute couture européenne. On a un continent, nous, ce continent où il y a pratiquement 1 milliard 500 millions de personnes qui ont envie de porter africain, qui sont là pour leur dignité, ils doivent être satisfaits. Et ça, c'est très, très important qu'on les accompagne en leur faisant des vêtements, en éduquant nos enfants. Donc il y a uniquement cette déconnexion qui est encore là. Pourquoi? J'en sais rien, mais le combat continue parce que en continuant à faire des grands salons, en continuant à faire le FIMA, en continuant à faire des grandes activités culturelles et de la mode, les politiques et les banques vont comprendre. Les banquiers, c'est aussi un gros frein, parce que les banquiers africains ou d'autres banquiers à qui on va demander appui ne sont pas toujours à l'écoute par rapport à ce que nous voulons pour la mode africaine.
Vous êtes justement un pionnier dans le domaine de la mode africaine. Votre carrière a débuté dans les années 80, à une époque où très peu de gens parlaient de la mode africaine. Aujourd'hui, la mode africaine séduit de Paris à Tokyo, en passant par New York. Pensez-vous que la mode africaine est arrivée à un tournant en 35 ans de métier? Comment voyez-vous l'évolution de la création africaine?
Que nous avons eu beaucoup de soucis au départ. On a eu beaucoup d'incompréhensions. J'ai été pratiquement pris par des parents pour m'amener à la police, voilà, pour faire défiler les garçons et les filles, les femmes. Mais après, 10 ans, 15 ans après, ça a été quand même une fierté de pouvoir porter les vêtements d'un créateur africain. Donc ça, au départ, c'était quand même mal compris. Aujourd'hui, vraiment, je sens que la mode africaine commence à voir le jour. Les couturiers européens utilisent nos textiles, utilisent nos valeurs, utilisent nos symboles, nos bijoux. Il y a eu ce grand film américain qui s'appelle Black Panthers, qu'aujourd'hui vous avez vu, ce qu'ils ont utilisé en matière, ce qu'ils ont utilisé en... Même si ça a été financé par des financements européens ou des financements autres, en tout cas, toutes les valeurs dedans, les beautés, le style, la créativité, les foulards, et sont africains. L'Afrique est à la mode, le noir est à la mode, donc on doit donner cette dignité à l'Afrique. On ne doit pas nous laisser uniquement lécher ou toucher. Aujourd'hui, quand je vais à Paris ou quand je fais mes grands shows, peut-être il n'y a que France 24 ou Afrique 24 qui viennent, ou des fois la 3. Jamais TF1 ne vient nous filmer, jamais des grandes télévisions qui doivent faire la vérité à la Fondation est là aujourd'hui. Je suis content qu'ils soient là. Ça, c'est des choses qu'il faut savoir. Ils ont compris l'intérêt de l'Afrique et l'Afrique a besoin d'être prise en charge, d'être comprise par rapport à la mode, par rapport à la création qui va aller très très loin.
Le continent regorge de talents, vous l'avez souligné, Alfadi. Avez-vous un designer chouchou, par exemple?
Oui, j'avoue que l'année passée, on a eu un gagnant qui... Le Maroc a été quand même des gros talents qui font un travail de qualité, une finition impeccable, qui s'inspirent du continent africain, qui sont complètement aussi open-mind par rapport à leur esprit de création. Ils peuvent habiller aussi bien la française que la chinoise que l'européenne. En tant qu'Africain, pour moi, je suis très très content. J'aime bien Gilles Toury, vous savez, c'est un créateur de Côte d'Ivoire qui va venir d'ailleurs, qui va défiler. Il y a d'autres créateurs jeunes, talents qui sont là aussi, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire qui sont là, que j'aime pas tellement dire que c'est mon préféré celui-là, pour ne pas faire des jaloux.
Voilà. On va laisser comme ça, mais vous encouragez, j'imagine, l'ensemble des jeunes créateurs.
Voilà.
Quel message, quel conseil on pourrait justement adresser à ces jeunes créateurs qui tentent de suivre vos pas?
Ben, je leur dis uniquement que c'est un travail magnifique, qu'il faut donner son amour, son cœur et être patient pour qu'on puisse quand même être compris, respecter ses engagements avec sa clientèle. Vous savez, la mode n'est pas uniquement que la création. La mode, c'est le côté économique. La mode, c'est le côté création d'emplois. La mode, c'est le côté équipe. Un créateur doit être accompagné par son designer, par son styliste, peut-être. Lui, il est styliste, il sait comment faire pour le choix de son textile, faire ses recherches, mais aussi doit être accompagné par une équipe, même au niveau de la coupe, même au niveau de l'image, du patronage, du moulage, au niveau de tout. Mais quand on a une bonne équipe, on peut aller très loin. C'est ça que l'Africain n'a pas compris au départ. Quand on fait une belle maison, il faut d'abord un architecte. Voilà, et puis il faut un architecte d'abord à la base, absolument, avant d'avoir les maçons, avant d'avoir les peintres, avant d'avoir les sculpteurs, avant d'avoir les
caroliers. La clé de votre succès aujourd'hui, vous faites rêver de nombreux jeunes, vous parlez d'équipe, vous parlez de bon entourage. Comment les conseiller véritablement pour qu'eux aussi s'entourent de bonnes personnes? Est-ce que vous avez eu des difficultés par exemple à recruter?
En fin de compte, au départ, c'était pas facile, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais aujourd'hui, je crois qu'il faut se donner le temps d'être compris, d'être aimé, avant réellement de pouvoir vendre sa tenue. Aujourd'hui, quand un jeune porte une chemise Alfadi, il est fier. Absolument. Il y a même beaucoup qui ont même peur de rentrer dans la boutique Alfadi, croyant que ça va être beaucoup d'argent qu'ils peuvent payer, ils peuvent pas payer. Mais c'est pas ça l'Afrique, c'est pas vrai. Nous voulons et nous donnons des prix intéressants. Nous rentrons même dans la rue parce que nous faisons des t-shirts qui coûtent pas cher, des chemises qui coûtent pas très très cher, pour montrer à la population que des marques africaines doivent être aimées et respectées par la population elle-même. D'où l'intérêt de supporter des salons comme Aske, qui est là aujourd'hui. L'innovation, la créativité, l'art, et montrer qu'aujourd'hui que l'Afrique est un continent positif. Ce n'est pas un continent des maladies ou un continent des guerres.
Absolument. Mais
un continent
aussi. C'est ce que nous faisons au sein de notre émission. Notre émission s'achève sur ces mots d'Alfadi. Merci beaucoup de nous avoir invités. Et merci également à Abderrahmane Moulay et Bouli qui nous ont aidés à préparer cette émission. Et oui, 50 minutes se sont déjà écoulées. Je sais, c'est trop rapide, mais je vous promets qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro consacré au tabou des règles. Pour participer à l'émission, contactez-nous dès à présent sur Facebook, Twitter ou Instagram. On a même WhatsApp au 33 647 740 740. 42. Et avant de rendre le micro, je vous remercie également de nous avoir suivis, chères auditrices et auditeurs. Et un dernier merci adressé à la formidable équipe d'Alors on dit quoi, Dibril, Beverly, Mariam, Claire, Daba et Guillaume. Tout de suite, retrouvez le journal de la rédaction sur RFI. Kala, Tonton, Ubno, Noha, Gongol, à bientôt.